Merci les musiciens. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Dieu vous bénisse. Vous allez tous bien?
Oui.
Moi aussi, et moi aussi. Bien, nous allons commencer notre culte, notre méditation en lisant Matthieu chapitre 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Voilà. Quand Jésus était sur la terre, on voit juste avant, il enseignait, il faisait des miracles, il ressuscitait les morts. Eh bien, ça n'empêchait pas les disciples de se poser des questions idiotes et même de se disputer entre eux. Le jour de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean avaient été choisis par Jésus pour monter sur la montagne, et là ils ont vu Jésus parlant avec Moïse, avec Élie. C'était un moment magnifique quand ils redescendent. Et bien, qu'est-ce qu'ils trouvent? Le chaos parmi les disciples. Ils n'avaient pas été capables de guérir un enfant. Et ils étaient tout énervés. Alors Jésus s'occupe d'abord du papa de l'enfant, puis ensuite il s'occupe de l'enfant en le délivrant. Et un peu plus tard, en privé, Jésus dit à ses disciples qu'ils pourraient faire cela s'ils se consacraient plus pleinement à la prière et au jeûne. Jusqu'au retour de Jésus, il y aura toujours des gens qui croiront suffisamment pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir chasser des démons, ressusciter les morts. Là, j'ai mis, comme on a beaucoup de nouvelles personnes, j'ai mis mon témoignage sur la page Facebook Révélation Bible, mais j'ai eu énormément de moqueries, de critiques, de gens qui ne connaissent rien, et qui me traitent de tous les noms et tout. Parce qu'ils savent pas, les gens savent pas. Et pourquoi ne savent-ils pas? Parce que il y a personne pour leur dire, il y a personne pour leur montrer. Et le problème, c'est que les disciples de Jésus d'aujourd'hui sont la même chose que les disciples de Jésus au temps de Jésus. Ils chipotent, ils discutent, ils se disputent. C'est vraiment affligeant, ça donne un spectacle qui est bien triste. Et alors, qui est le plus grand? Quelle est la meilleure église? C'est nous. Non, c'est pas vous, c'est nous. Bon. Jésus leur répond que le plus grand, c'est celui qui sera le serviteur de tous. Voilà. Il classe l'affaire. Vous savez, quand Paul s'est adressé aux Corinthiens, il a affirmé que la foi doit être fondée non sur la sagesse de ce siècle, ni sur les chefs de ce siècle, et il dit carrément qu'ils vont être anéantis, mais sur le Seigneur Dieu, sur sa puissance. On va lire 1 Corinthiens 2, 5, 7. Votre foi, il dit, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Il est terrible, hein? Il est terrible. Ce qu'il affirme est terrible. Pour notre part, nous connaissons les Écritures, nous les méditons, nous en parlons, nous l'étudions, nous croyons que nous vivons dans l'époque du rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire de la guérison de toute chose, mais de quelle chose? Pas de ce monde, mais des choses de Dieu. Et c'est ainsi que nous comprenons que le monde n'est pas en soi le problème, c'est un problème spirituel. On dit oui, c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel, c'est vrai que voilà, c'est un tel que on voit, ses chefs et compagnie, sont animés par des esprits, c'est un monde spirituel qui anime tout ça. Et nous acceptons toutes les vérités que Dieu transmet à ses enfants, qu'elles soient découvertes par la science ou par la révélation, qui ne contredit pas la Bible. Alors des gens disent, oui, mais ce que tu dis là, c'est une interprétation des Écritures. Écoutez, bon, l'interprétation des Écritures, comment peut-on interpréter faussement les Écritures quand l'apôtre Paul dit que les premiers chrétiens se faisaient baptiser pour les morts, on n'a pas à interpréter ça, il le faisait, point barre. Il n'est pas en train de donner une mauvaise doctrine pour mettre le trouble. C'est au IVe siècle que ça a été interdit par l'Église, créée de toutes pièces par les gens, mais ils ont enlevé cette parole. Quand il est dit qu'il faut se laver les pieds les uns les autres, c'est pas, on n'interprète pas ça. C'est clair, c'est net. Quand il est dit qu'on doit s'aimer les uns les autres, c'est clair aussi. Qu'est-ce qu'on interprète? Quand il est dit que les premiers chrétiens vivaient en communauté, c'est pas une interprétation, c'est vrai, c'est comme ça. Puis si on veut ressembler le plus possible aux premiers chrétiens, ben on fait ce qui est écrit, c'est tout. Alors, quand on lit que Jésus a dit à ses disciples toutes les choses qu'il leur a dites et qu'on trouve dans les Écritures, ça nous montre que nous devons nous détacher des hypothèses naturelles, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses, pour nous laisser enseigner par le Saint-Esprit, pour avoir une bonne façon d'être, une nouvelle culture. Alors, les gens sont des fois embêtés parce que, oh, moi j'ai ma culture, tu comprends, oui, bon, ben, oui, t'as ta culture, moi aussi je suis chauvin, je suis suisse et je suis sauvage, j'ai ma culture. Tant que ça contredit pas les Écritures, c'est bon. Mais si ça contredit les Écritures, il faut abandonner cette culture. 1 Corinthiens 2, 14, 16. Qu'est-ce que j'ai dit ? 1 Corinthiens 2, 14, 16. Yeah, ça n'existe pas ?
Si.
Si. Si, quand même, ça existe. Alors, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Oui. Car elles sont pour lui une folie. Et il ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout, n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Seigneur. Vous avez vu, Jésus dit, vous n'êtes pas de ce monde. Il est très gentil, il est en train de dire qu'on n'est pas de ce monde, qu'on est de son monde à lui. Et l'apôtre Paul, il va plus loin. Il dit que les gens de ce monde sont des animaux. Sont des animaux. Oups. Il dit qu'ils sont incapables de connaître ce que nous connaissons. Vous savez, ça fait depuis 68 que je prêche l'Évangile et je me suis rendu compte que c'est vrai, il a raison. Ce que nous connaissons, c'est une folie pour eux, c'est d'ailleurs pourquoi ils m'insultent, très souvent. Mais ceux qui m'insultent, je les vire, je les bloque parce que j'aime pas avoir ces choses-là traîner sur ma page Facebook, j'aime pas. Je trouve que ça n'édifie personne, donc j'enlève et puis c'est tout. Ils ne peuvent même pas comprendre. C'est pas dans leur pouvoir de comprendre ce que nous comprenons. Ils peuvent pas. J'aime beaucoup les animaux. Là, on a des chiens, des chats, des poules. On a même des punaises en ce moment. Mais pas des punaises de lit, hein. C'est gros machin. Voilà. J'aime beaucoup les animaux, mais bon, essayez d'enseigner une vache essayez d'enseigner un crocodile ou même votre chat préféré au sujet des choses de Dieu, vous verrez vite qu'ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent pas, c'est pas fait pour eux. Ils ne comprennent pas. Eh bien, les gens de ce monde, même les chefs, même les hauts dignitaires religieux de ce monde sont pareils. Ils peuvent avoir une religion, mais ils ne comprennent rien aux choses de Dieu. Aux choses de Dieu, ils ne comprennent rien. On va encore reprendre un Corinthien. Cette fois, c'est un Corinthien de 11-13. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'esprit de l'homme? Si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Si vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous pouvez connaître les choses de Dieu. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas possible. C'est un autre monde, c'est autre chose. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est une grâce, hein, on n'est pas orgueilleux, on ne se vante pas d'avoir de connaître des choses que les veaux, les vaches et les cochons ne connaissent pas. Hein, mais c'est une grâce que Dieu nous a faite. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. En ce moment, il y a des gens qui sont envoyés par Dieu sur cette terre pour guider le peuple de Dieu et pour apprendre aux enfants de Dieu à se détacher, à détacher leur esprit du quotidien et à adopter la pensée de Jésus-Christ. Il y a des véritables hommes de Dieu, des véritables femmes de Dieu partout dans ce monde qui font ça. Puis par-dedans, ben, il y a aussi des escrocs, il y a toutes sortes de choses. Alors, les gens font vite l'amalgame. Vous dites que vous priez pour les malades, que les malades sont guéris. Attention, arnaque! Voilà. Les gens font des amalgames, ils cherchent pas à comprendre. C'est là, c'est de la... Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que Jésus pense au sujet du monde de nos jours? Eh bien, ceux qui écoutent les vrais serviteurs de Dieu, les vrais envoyés de Dieu, appliquent les conseils qu'ils reçoivent et constatent qu'ils se débarrassent de leurs attitudes restrictives, de leurs attitudes revendicatrices, de révoltées, pour développer la pensée de Jésus en établissant la paix. Mais pas une paix basée sur rien. On n'établit pas une paix basée sur rien. Vous avez des religions qui essayent de créer un œcuménisme, une paix, mais sur quoi ? Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur, oui, mais je crois pas du tout la même chose que toi, mais bon, on n'en parle pas, puis on parle pas de choses qui fâchent, et puis comme ça, ça va. Mais ça, c'est pas vraiment selon Dieu, c'est n'importe quoi. Ceux qui écoutent les envoyés de Dieu maintiennent leur élan spirituel en prenant du temps pour le Seigneur, en lisant la Bible, en priant, en agissant selon les commandements de Jésus et des apôtres, en se repentant si besoin est, et en cherchant à recevoir des révélations, en pensant de manière céleste et non pas terrestre. Comment on peut penser de manière céleste? Ben, déjà, si vous avez la pensée de Christ, vous pouvez penser de manière céleste. La pensée de Christ, vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne la connaissez pas. Et vous ne la connaissez pas si vous ne lisez pas les Écritures. Vous pouvez dire « je suis chrétien », et si vous ne connaissez pas les Écritures, non, vous vous illusionnez. Vous avez une religion, mais vous n'êtes pas chrétien vraiment. Vous ne connaissez pas ce que Jésus dit. Votre être tout entier va être renouvelé lorsque vous vous engagerez dans l'œuvre du salut. Parce que ça, c'est ce que Dieu veut en premier, qu'on s'engage dans l'œuvre du salut et qu'on prenne soin des autres. Et cela, c'est fatigant. C'est fatigant. La mission que Jésus nous confie, elle est fatigante, elle est exigeante, elle est... parce que c'est impossible qu'un homme animal puisse être sauvé s'il est ignorant et ne peut pas connaître. Alors notre mission sur Terre, c'est d'enseigner par tous les moyens pour que les gens sachent, entendent, comprennent comment adorer, qui adorer, afin que ils arrivent à recevoir ce que nous avons reçu. Mais la plupart du temps, on parle à des êtres, à des hommes animaux, c'est-à-dire à des gens qui sont pas concernés. Nous vivons à l'époque où les pierres crient. Jésus a dit, quand le peuple cessera de me louer, les pierres se mettront à crier. Et ce qu'il voulait dire là, le mot archéologie n'existait pas encore, mais aujourd'hui l'archéologie démontre de plus en plus que ce que la Bible dit est vrai. Et elle confirme les Écritures. Mais combien de chrétiens ont pris le temps, par exemple, de lire les manuscrits de la Mer Morte? Combien de chrétiens ont pris le temps de lire les manuscrits de la Mer Morte? Vous savez, ce sont des manuscrits qui ont été écrits par des Esséniens, environ 200 ans, même un peu avant déjà Jésus-Christ, et c'est absolument extraordinaire. Mais j'ai même des gens de ma propre famille qui n'ont pas lu. Ma propre famille, en foot. J'ai des amis, des vrais amis, des gens qui mais ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu. Vous savez, Jésus nous parle de, à la fin, trouverai-je la foi quand je viendrai sur terre. Et il dit, ça sera comme si je vais trouver 10 vierges. Il y en aura 5 sages et 5 folles. Et les 5 sages et les 5 folles dormiront. Alors, en Afrique, quand je prêche, je dis, qui veut être une vierge folle? Levez la main. Alors, personne ne lève la main. Et puis, quand je dis, qui c'est qui veut être une vierge sage? Alors, tout le monde lève la main. Alléluia, alléluia. Je dis, moi, je veux pas. Je veux pas être une vierge sage. Ah bon, pourquoi? Je dis, parce qu'elle dort. Oh, il n'a pas réalisé. Ce que je veux être, moi, c'est la voix qui crie. Parce que quand les vierges dorment, comme ça, il y a une voix qui crie, qui s'élève et qui dit « Réveillez-vous, l'époux vient, il faut aller à sa rencontre !» Alors toutes les vierges se réveillent, c'est-à-dire toutes les personnes qui aiment Jésus, qui se gardent pures pour Jésus, se réveillent et puis elles veulent allumer leur lampe pour aller à la rencontre de Jésus, mais les folles, elles n'ont pas ce qu'il faut dedans. Hein, elles n'ont pas l'huile qu'il faut, il n'y en a pas assez... Et alors elle demande aux sages, vous ne pouvez pas nous en donner un peu? Puis les sages disent, excusez-moi, mais si je vous en donne, j'en aurai plus assez pour moi. Non, je ne peux pas aller chez ceux qui en vendent. Vous savez, chez ce prédicateur qui vous vendent les bénédictions. Hein? On en trouve combien de ces prédicateurs qui vendent des bénédictions? Ah ben, allez chez eux. Et puis les vierges sages vont, et puis elles, la porte est ouverte, et puis elles rentrent, et puis elles sont reçues par Jésus, Abraham, Isaac, Jacob, tous les saints, et puis c'est la fête, c'est un repas extraordinaire. Et puis quand les vierges folles finalement arrivent, parce qu'elles arrivent finalement, elles tapent à la porte, et puis Jésus regarde par le Judas. Il regarde par le petit trou, il dit, mais vous êtes qui? Mon frère Seigneur, je ne vous connais pas. Il est vire. Voilà. Hein, c'est ça. Ils dorment. Ils lisent à peine leur Bible. Alors comment est-ce qu'on peut leur faire lire les manuscrits de la Mer Morte? Je rêve là, on ne peut pas. Alors, le conseil que je vous donne, c'est déjà de lire la Bible, puis ensuite, vous lancerez dans les manuscrits de la Mer Morte, vous allez voir, c'est très enrichissant. Mais qui écoute ce que je dis? Là, il y a quelques milliers de personnes qui vont écouter ce que je suis en train de dire là ce matin. Vous voyez, c'est comme au temps de Jésus, les disciples se disputaient pour savoir si j'utilise la gna 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 gna. Ils ne priaient pas, ils ne jeûnaient pas, et Jésus leur dit, voilà, vous n'avez pas réussi parce que vous n'êtes pas des gens spirituels, vous jeûnez pas. Cette sorte de démon-là, il sort... Quel démon? Le démon du gamin? Non, vos démons à vous. Vos démons d'incrédulité, vos démons de sommeil, hein, et ils sortiront seulement si vous jeûnez. Alors, il leur dit, juste avant ça, il leur dit, vous savez, bientôt on va m'arrêter et on va me mettre à mort. Ils contestent sa parole. Ils ont Jésus devant eux. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont vu ressusciter Lazare, ils l'ont vu ressusciter la fille de Jaïrus, ils l'ont vu faire des choses, marcher sur de l'eau, ils l'ont entendu dire des choses magnifiques. Ils contestent. Ah ben non, mais moi je pense que... Alors que dire? Eh ben je vous dirai ce que Dieu me dit de vous dire, et puis c'est tout. Hein. Si vous ne voulez pas écouter, ça vous regarde. Mais comme dit le prophète, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire moi et ma communauté, moi et ma famille. Mais pour vous qui écoutez et qui croyez ce que je vous raconte, soyez des témoins. Vous voyez, c'est fatigant, parce que vous aurez parfois l'impression de parler à une grosse vache. Un crocodile. Un âne. Ça peut arriver, hein, ça arrive souvent. Ce sont des hommes animaux. N'oubliez pas que Paul nous l'a dit. Il nous a avertis. Mais il nous a dit d'être témoins auprès de tous. C'est pas à nous de juger si un tel est un âne, une vache, un chat, un homme animal, une femme animale. C'est pas à nous de juger. On doit les évangéliser, on doit témoigner, on doit leur parler. Parce que parmi eux, il y a encore des gens prédestinés au salut. Alors ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Chaque jour, lisez votre Bible. C'est une nourriture pour votre être. C'est la nourriture dont votre esprit a besoin. Votre âme a besoin. Priez. Jésus priait. Il y en a qui me disent, oui, mais voyez que Jésus n'est pas Dieu puisqu'il priait. J'en ai marre d'expliquer. Je ne veux pas expliquer, j'en ai marre d'expliquer. Jésus est Dieu, il est Dieu venu dans la chair parmi nous, et puis voilà, et il prie à son Père qui est Dieu l'omniprésent et tout, il remettait sa journée. Alors lisez votre Bible, priez, parlez au monde, au moins à une personne par jour, au sujet du salut, parlez-lui pas. Tu sais, dimanche, j'allais à l'église, c'était bien, on était 50 personnes, on a chanté, on a des chants formidables, tu devrais venir. Non, ça c'est pas un témoignage. Il faut que vous témoigniez du salut, que vous expliquiez le plan du salut, comment être sauvé aux gens. C'est ça qu'il faut, c'est ça témoigner. C'est dire ce que Jésus a fait pour les gens. Et si les chrétiens vous cherchent des noises, des poux dans la tête, parce que moi ça m'est arrivé, vous savez, au début quand Michou et moi on a commencé, on allait au hall. Et puis on se mettait à genoux dans la rue, puis on priait, et puis quand on se levait, il y avait des fois 200, 300, 400 personnes. Même la police, ils détournaient les voitures pour nous laisser prêcher. Ils étaient formidables, faut dire qu'aussi on prêchait intelligemment. Je prêchais en disant, la Bible dit, soyez soumis aux autorités. Alors quand les flics entendaient ça, ils étaient tout contents. Ils étaient avec moi. Et il y avait un pasteur, il est mort maintenant, il nous avait prêté un local tout près des puces à Paris. Et alors on invitait les gens ensuite, ceux qui voulaient se convertir, à venir dans ce local. Puis un jour, le pasteur qui nous prêtait ce local, il a appris que je priais dans la rue et que je prêchais dans la rue. Il a dit, c'est anti-biblique. La Bible dit, il n'élèvera pas sa voix au coin des rues. Et il m'a foutu dehors. Il nous a foutu dehors. C'est comme ça. Vous avez des chrétiens qui vous chercheront des noises. Il y a déjà du temps des disciples qui se cherchaient des noises entre eux. Qu'est-ce que vous... Les choses n'ont pas changé. C'est des êtres humains, la même chose, c'est pareil. Mais simplement, laissez-les, et puis éloignez-vous d'eux, parce que ça ne sert à rien de se prendre des baffes toute la journée. Hein. Mais plaisez à Dieu. Faites ce que le Seigneur nous dit de faire. Faites-le avec joie, avec empressement. Et comme je vous dis, au moins à une personne chaque jour. Témoignez de l'amour de Jésus, de ce qu'il a fait sur la croix pour vous et pour eux. Témoignez-leur. Si c'est une vache, elle fera meuh. Si c'est un crocodile, il fera rah. Si c'est un chat, il fera miaou. Si c'est un chien, il vous aboiera un peu. Hein, voilà, des hommes animaux, il y en a plein. Mais parmi eux, il y a encore des gens qui sont des gens que Dieu a prédestiné au salut. Il faut qu'ils vous entendent. Dieu n'a pas d'autre bouche que la vôtre. Alors parlez, témoignez. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.